Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Dakar. Juan Gomez.
Au retour dans la capitale sénégalaise. Merci à tous. Nous sommes à l'université des savoir-faire. Nous parlons ce matin de cette monnaie qui divise, qui suscite beaucoup de fantasmes et alimente des rumeurs. Nous parlons du franc CFA. Ces derniers mois, vous l'avez suivi comme nous, le débat s'est enflammé. On a donc voulu consacrer cette émission à vous, les auditeurs, vos questions, afin que vous puissiez, au terme de ces 40 minutes d'appel sur l'actualité, peut-être mieux cerner cette question qui vous concerne dans votre vie quotidienne, puisque vous avez tous des francs CFA dans vos porte-monnaies. Mais c'est une question éminemment technique et compliquée, donc on essaye d'être évidemment pédagogue avec nos invités. Amadou Alaminou Lo, directeur national pour le Sénégal, professeur émérite Moustapha Kassé est également avec nous. Vous êtes le président de l'Association sénégalaise des économistes. Vous plaidez, vous, pour une réforme de cette monnaie. Et Guy Marius Sagna, membre de la plateforme pour la souveraineté monétaire France Dégage, plateforme qui plaide pour la suppression de cette monnaie. Bonjour Narcisse.
Bonjour,
on vous écoute. Quelle est votre question ?
Ma question est la suivante. Depuis l'accord de Bretton Woods, il y a eu l'institution de la zone franc, qui comprend le Mali, la CEMAC et les Comores. Pourquoi une zone franc et trois monnaies ? C'est ça ma question.
Ah, c'est une très très bonne question. Qui souhaite répondre ? Monsieur Lowe, c'est vrai qu'on a le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA pour l'Afrique centrale et le franc de l'Union des Comores.
Alors, vous dire que cette situation date de juste avant les indépendances, lorsque le franc français, le franc de la commune des colonies françaises d'Afrique, a été démonétisé. Et chaque monnaie est créée pour un espace correspondant aux réalités sociologiques et socio-économiques. La réalité de l'Afrique de l'Ouest n'est pas la réalité de l'Afrique centrale. C'est des pays pétroliers. Nous sommes essentiellement des pays sahéliens. Et ce n'est pas la réalité des Comores. Oui. En matière de monnaie, une monnaie est adaptée à un contexte économique. Ça n'empêche que ces trois monnaies peuvent être dans un cadre de coopération à définir, et c'est ça la marche vers laquelle nous allons.
Mais ce sont trois monnaies qui ont la même valeur, mais elles ne sont pas interchangeables, ces trois monnaies.
Elles n'ont pas la même valeur. Le franc CFA Afrique centrale et franc CFA Afrique de l'Ouest ont la même valeur vis-à-vis de l'euro.
Oui, de l'euro.
Ce qui n'est pas le cas du franc comorien. Mmh. Et ça correspondait à des approches. La preuve, je vous donne une anecdote que beaucoup ne savent pas. Savez-vous que à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le franc CFA Afrique de l'Ouest était plus solide que le franc français. Le franc français a été dévalué 13 fois et le franc CFA est resté stable. C'est ça les réalités d'une monnaie.
Mais y a
une
aussi,
monnaie, un contexte socio-économique.
Il y a aussi une autre réalité qui est que si je suis homme d'affaires ouest-africain, avec mes francs CFA d'ici, je ne peux pas aller faire des affaires en Afrique centrale. Je suis obligé de changer mon franc CFA. Est-ce que ça ne pénalise pas les échanges commerciaux?
Mais ça suppose qu'on soit en intégration monétaire complète. Et là, on va rentrer dans la théorie. Je laisse cela au professeur Kassé.
En deux mots, professeur, je sais que c'est compliqué de schématiser.
Oui, mais schématiquement, c'est que ce que disait le directeur est absolument bien fondé. Bien.
Mais ça ne pénalise pas les échanges commerciaux
non,
entre les deux régions?
Non, pas du tout. Mais si vous allez au port de Lomé, ou bien vous allez à l'aéroport de Dakar, vous trouverez toujours des francs CFA d'Afrique de l'Ouest, oui, etc. Vous avez des marchés parallèles.
Alors, il y a Sylvestre qui va poser une question que de nombreux auditeurs se posent, puisqu'elle alimente, elle aussi, le débat. Bonjour Sylvestre.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser une question. Pourquoi les anti-francs CFA pensent que c'est un frein pour le développement des pays de la zone francs CFA?
Alors, Guy Marius Sagna, effectivement, c'est l'un de vos arguments et de tous ceux qui plaident pour la suppression de cette monnaie. En quoi le franc CFA est un frein au développement?
Il y a des éléments socio-économiques qui, en fait, montrent effectivement que ce franc CFA, instrument d'oppression de nos peuples, n'est pas, en fait, pour le développement. Aujourd'hui, vous prenez les 14 pays, moins les Comores, des deux zones CFA, UEMOA et CEMAC, vous trouverez que les 10 font partie de ce qu'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Premier élément. Deuxième élément, même les autres 4 pays, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, et je ne sais plus quel est l'autre pays, même s'ils ne sont pas parmi les pays les moins avancés, ont reculé dans l'absolu, d'accord, si vous prenez en fait leur meilleure croissance historiquement.
Alors, deuxième élément. Justement, Guy Marius Sagna, quand je regarde, j'ai sous les yeux justement le dernier rapport des Nations Unies pour le développement. Effectivement, les derniers pays sont. Il se trouve que ce sont des pays qui ont pour monnaie le franc CFA. Est-ce que vous pensez que c'est la monnaie qui est responsable du sous-développement?
Mais deux choses. J'allais effectivement citer le classement IDH du PNUD de 2016, où les quatre derniers pays sont tous de la zone CFA. Mali, Niger, Tchad, Centrafrique. Alors, mais nous ne disons pas que la monnaie, ce franc CFA-là, est la seule raison de notre pauvreté, de notre sous-développement. Mais nous disons qu'il y participe. Les deux leviers économiques à partir desquels on développe un pays, c'est le budget. Notre budget, il est contrôlé par l'IFM et la Banque mondiale. Ce n'est pas le thème. Le deuxième élément, c'est la monnaie. Il est contrôlé par la France.
Alors, Monsieur Lowe, de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, vous répond.
Juste deux faits. Et encore une fois, j'aurais bien aimé que Guy Marius Sagna donne des chiffres à chaque fois. Les économies qui ont la croissance la plus élevée depuis au moins 4 ou 5 ans en Afrique subsaharienne sont des économies qui utilisent le franc CFA. Et à contrario, il y en a qui n'ont pas le franc CFA et qui sont des pays pauvres.
Depuis quand?
4 ou 5 ans, les meilleurs taux de croissance sont les taux de croissance.
Nous sommes indépendants depuis 60 ans,
attendez,
ils donnent 4 années.
Laissez-le s'expliquer.
On est aujourd'hui à 7% de taux de croissance. Nous sommes parmi les 6 pays qui ont les croissances les plus élevées dans le monde. Il y a en matière de croissance, encore une fois, M. Guy Sagna, les activistes, la dénonciation, c'est bien, vous le reconnaissez. Le CFA n'est pas seul responsable.
Oui, alors en même temps.
Mais regardez ce qui est responsable, la politique économique, elle est globale. Nous avons les taux d'intérêt les moins élevés dans le monde. Le Sénégal était allé sur les marchés financiers, on a voulu lui prêter avec la Côte d'Ivoire, chaque pays, il y avait au moins 8 milliards de dollars. Les investisseurs avaient confiance à hauteur de ce montant. Vous pensez que quand vous avez une mauvaise monnaie, une mauvaise politique de change, une mauvaise politique monétaire, on vous prêterait autant?
Donc,
soyons cohérents.
Alors justement, pour
le franc CFA, au contraire, est une solution parce qu'elle apporte la stabilité et permet aux investisseurs et aux autochtones d'investir et de produire.
Alors, Guy Marius Sagna, vous souhaitez rebondir?
Oui,
et on redonne le micro au public.
Oui, écoutez, nous avons un franc CFA qui est fort parce qu'arrimé à une monnaie forte. Et une monnaie forte, elle fonctionne comme ceci. C'est une subvention à l'importation, c'est une taxe à l'exportation. Alors aujourd'hui, pour être concret, je n'ai coupé personne. Je demande que les gens me souffrent. Je demande que les gens me souffrent quand je parle. Aujourd'hui, pour lier ça à notre contexte, nous avons aujourd'hui 300 000 demandeurs d'emploi au Sénégal. Pour donner un cas précis, l'État du Sénégal ne peut pas donner plus de 30 000 emplois. Mais si vous avez un système qui favorise les importations, vous mettez vos PME-PMI, dont le taux de mortalité est de 64%, dans une situation de concurrence qu'elles ne peuvent pas soutenir. Et du coup, vous ne pouvez pas régler la question du chômage. Alors, deuxièmement, si vous avez des entreprises qui veulent exporter et qu'à cause du franc CFA, c'est une taxe à l'exportation, mais vous avez des difficultés à vendre. Voilà la réalité également du franc CFA.
J'aimerais avoir la réalité également du professeur Cassé. L'échange est intéressant, je tiens à le dire. En tant qu'auditeur, je vous regarde. Professeur Cassé, en quelques mots.
C'est intéressant, mais si on a la même lecture des chiffres, les chiffres sont extrêmement importants pour, effectivement, celui qui veut réfléchir sur un problème aussi technique. Prenons les chiffres qui sont avancés sur la croissance. Donc, j'ai étudié personnellement la croissance de 1960 à 1912. Pour le Sénégal, j'ai même écrit un livre sur la question. C'est absolument faux de dire effectivement qu'il y a une situation de décroissance. La croissance, elle est tâtonne. Mais la croissance ne se mange pas, mais elle traduit la bonne marche d'une économie nationale. Sans croissance, vous ne progressez pas. On peut souhaiter qu'elle soit mieux répartie, on peut souhaiter qu'elle soit mieux partagée, etc. Mais sans croissance, pas de développement.
Allez, on repasse le micro de RFI au public. Safi est avec nous. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Alors moi, le point que j'aimerais aborder est celui de l'impression et du contrôle du CFA par la France. Pourquoi c'est la France qui fabrique cette monnaie? L'euro est fabriqué en France, mais aussi en Allemagne et dans les autres pays de la zone euro. Alors pourquoi pas nous?
Alors Monsieur Lowe vous répond de la BCAO, c'est vrai que le lieu d'impression du franc CFA alimente de nombreux fantasmes.
Alors pour mademoiselle, si vous prenez les 54 pays africains, n'y a que 8 pays africains qui fabriquent leurs billets sur leur propre territoire et avec l'aide des industries chez lesquelles les 46 autres fabriquent leurs billets. C'est une question de fierté, mais pas une question de raison. Les billets de banque sont fabriqués par 5 ou 6 grands groupes pour toute l'Afrique.
Ah, pour toute l'Afrique.
Donc, quand vous voulez faire fabriquer vos billets, évidemment, la Banque de France, c'est des relations historiques. Nos billets ont une certaine caractéristique par rapport au climat. La Banque de France maîtrise parfaitement parce que, ayant déjà fait les billets depuis 100 ans, maîtrise parfaitement et fait des conditions concurrentielles particulièrement importantes. Il n'y a pas à se dire la fierté de faire chez vous. Ça ne sert à rien.
Donc,
ce qui sert, c'est d'avoir les meilleurs coûts et d'avoir la meilleure sécurité. Le franc CFA fait partie des monnaies les moins falsifiées, mais parce que la sécurité y est.
Est-ce que vous avez essayé, par exemple, à la BCAO, de recourir à des appels d'offres pour voir s'il n'y avait pas d'autres grands groupes à travers le monde qui étaient tout aussi excellents au niveau nous technique que la banque française?
Nous l'avions, et peut-être essayé, moins cher. Nous l'avions essayé sur une coupure qui s'est usée très rapidement. La Banque de France nous donne les meilleurs coûts possibles. Et au passage, la Banque de France édite pour la Guinée, pour Madagascar, pour la Tunisie, pour un certain nombre d'autres pays. Laissons tomber ce fantasme. Ce n'est qu'une production là où la production se fait à des coûts les mieux maîtrisés.
Guy Marussagna.
Mais moi, ça suscite en moi deux choses. Pourquoi depuis 1945, la BCAO ne s'est pas dotée, n'a pas cherché à se doter de la technicité qui lui permet de fabriquer cela ici? Qu'est-ce que la BCAO, la BEIAC, etc. sont en train de faire pour maîtriser cela, fabriquer ça ici et amortir leurs coûts? Parce que, quelle que soit en fait la bonté, d'accord, la qualité du grand frère français, à un moment donné, franchement, il faut prendre ses responsabilités.
Alors, Monsieur Lowe, vous répond. On a compris. Monsieur Lowe, vous répond.
Très rapidement, peut-être l'amener visiter une industrie fiduciaire, c'est de la très haute technologie, ça coûte des dizaines de milliards, pour ne pas dire des centaines de milliards. Pourquoi nous n'avons pas la technologie? Regardez l'ensemble des pays africains, les passeports et les cartes d'identité numérisées sont faits à l'extérieur. Il ne sert à rien d'investir dans une industrie pour faire des pertes. Monsieur Sagna, je peux vous dire ceci, nous n'avons aucun intérêt particulier à aller faire ailleurs. La Banque centrale est constituée d'Africains, aussi panafricanistes que vous, aussi entre guillemets conscients que l'Afrique se fera par les Africains. Ça fait plus de 40 ans que la Banque centrale est gérée par des Africains.
Et aussi qu'il accepte, oui, que c'est grâce à des activistes comme nous, oui, que les postes de la Banque centrale ont été africanisés. N'eût été des gens comme nous, des organisations comme nous, ils ne seraient pas là aujourd'hui.
D'accord.
Une seconde. Oui. Le premier activiste, c'était le premier gouverneur de la Banque centrale, Feu Abdoulaye Fadiga, qui était membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire. Absolument. La Banque centrale a été constituée par des révolutionnaires, M. Sagna.
Alors, on poursuit.
J'ajoute Amadi Ali Dieng.
Bien sûr.
Je peux y ajouter beaucoup de nos collègues qui étaient des révolutionnaires comme, oui, moi. Nous étions effectivement au niveau du pays. Nous avons fait à l'époque les grandes batailles de rue, oui, pour, oui, qu'il y ait une africanisation.
Merci beaucoup. Sadio, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Alors, nous avons remarqué que depuis mai 1983, l'idée de la création d'une monnaie unique a émergé de l'esprit de nos dirigeants. Mmh. D'ailleurs, plusieurs sommets ont été organisés, dont le plus récent s'est tenu à Accra ce février. Ce sommet a mis en exergue quelques divergences, car le Ghana et la Côte d'Ivoire disent pouvoir adopter cette monnaie unique à l'horizon 2020.
Tout à fait.
Alors que le Nigeria reste perplexe, car il pense que la convergence des monnaies est insatisfaisante.
Oui. Et vous aimeriez, vous, une monnaie unique au sein,
oui,
de la CEDEAO?
Je voulais savoir où on en est avec cette création d'une monnaie unique.
À quand une monnaie unique au sein de la CEDEAO? Qui souhaite répondre? Allez-y, professeur, oui, Cassé.
Merci bien. Là aussi, l'horizon 2020, je vous dis, ne sera pas respecté. On avait donné plusieurs horizons. Mais qu'est-ce qui retarde? Ce sont les pays qui ont des monnaies indépendantes qui retardent. C'est-à-dire qui retardent la création de la ZMAO, la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest. On avait dit, s'ils sont prêts, on va fusionner les deux zones. C'est-à-dire la zone CFA et la zone de la ZMAO. Et jusqu'à présent, toutes les études techniques sont prêtes. il y a que les politiques ne suivent pas. C'est là le problème. Il n'y a pas l'ombre d'un problème technique là-dessus. Mais pourtant, c'est entre les indépendantistes. Pourquoi ? Simplement parce que les politiques ne suivent pas. Le Nigeria ne suit pas. Quelle gouvernance on va mettre en place ? Quel système d'interparité on va mettre en place ? Quelles sont les réserves ? D'où proviendront-ils ? Etc. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur cette question-là. Ce que d'ailleurs, au niveau de la zone CFA, on n'a pas. Oui. On a une zone de co-solidarité, n'est-ce pas, qui fait en définitive qu'on a tout mis ensemble.
Oui. Voilà. Guimarães Sagna, cette question, elle vous interpelle ou pas?
Oui, deux éléments que cette question suscite en moi. Le premier élément, c'est qu'aussi, il faut compléter en disant que quelqu'un comme Buhari, c'est-à-dire le Nigeria, demande inlassablement aux pays en fait, de l'UMOA quand est-ce que vous allez vous aussi mettre un terme au cordon ombilical qui vous lie à la France. Ça, c'est un. Deuxième élément que cela suscite en moi, justement, ça fait 30 ans qu'on parle de la monnaie unique de la CEDEAO. Malheureusement, ceux qui veulent sortir de la tutelle française ne détiennent pas le pouvoir. Alors nous, notre proposition, elle est simple. En attendant de régler les histoires de critères de convergence et d'autres choses, la France n'a qu'à sortir de nos affaires monétaires. Parce que, quand même, lui, il doit pouvoir nous dire qu'il est suffisamment...
Quand vous dites lui, c'est le directeur...
C'est-à-dire les agents de la BCEAO oui. doivent pouvoir quand même être suffisamment compétents pour administrer eux-mêmes, sans l'aide de la France, notre monnaie. Au cas contraire, il faut les virer. Depuis 1960, avec les cadres que nous avons, pourquoi avons-nous besoin du grand frère français pour administrer notre monnaie?
Alors, Monsieur Lowe vous répond. Et un tour de table rapide pour la conclusion.
Très rapidement. Effectivement, reconnaissez que nous gérons de façon autonome depuis 1975 par des cadres compétents. Mais ce que vous demandez, c'est de lâcher la proie pour l'ombre. Vous avez un franc CFA solide. Vous qui êtes là, le public, est-ce que vous aimeriez aujourd'hui vous départir de votre franc CFA et aller vers l'inconnu? C'est cet inconnu-là.
Il y a du oui et du non dans le public.
À laquelle on vous appelle. Il faut garder raison. Le dernier sommet de Accra, sous la présidence de Alassane Ouattara, a dit ceci. Les pays qui seront prêts vont y aller ensemble en 2020. Les pays de l'Union monétaire africaine sont prêts parce que nous respectons les critères de convergence. Nous avons un beau taux d'inflation. Nous avons des niveaux de réserve de change suffisants. Nous arrivons à baisser nos déficits budgétaires. Et surtout, les États n'ont pas d'avance au niveau de la Banque centrale. L'État doit dépenser ce qu'il gagne, ce que les autres pays refusent
D'accord.
de faire.
Alors, le mot de la fin à vous, professeur Cassé. Qu'avez-vous envie de dire à ce public qui nous écoute, qui est passionné par la question du franc CFA? Vous êtes un réformiste. Quels sont vos projets?
Moi, j'ai dépassé d'être passionné. Je regarde la réalité avec beaucoup de froideur. Je regarde d'abord le monde tel qu'il est dessiné. Nous avons des systèmes, des perturbations monétaires absolument fréquentes. À partir de ce moment, si nous avons une zone de stabilité monétaire, une zone de stabilité économique, je ne vois pas pourquoi on l'abandonnerait effectivement pour faire autre chose. Premièrement. Deuxièmement, c'est ce qu'il nous propose d'en sortir. Oublie une chose, ces 8 États qui sont des États absolument économiquement inégaux. Donnez-nous un scénario qui nous dise, voilà le Sénégal pour avoir son autonomie monétaire, voilà ce qu'il doit faire. La Guinée-Bissau, voilà ce qu'elle doit faire. La Côte d'Ivoire, exactement. Le jour où vous nous montrerez que précisément l'indépendance monétaire est possible pour chacun des pays respectivement et qu'on a réuni tous les critères, à partir de ce moment, moi, j'applaudis.
Voilà, ce sera le mot de la fin. C'était le doyen de nos invités qui l'a prononcé. Merci beaucoup à tous les trois. Amadou, Alaminou Lowe, infiniment merci. Mostafa Kassé, Guimarães Sagna. Merci au public. Demain, on sera de retour à Paris avec la formule habituelle. Vos questions à la rédaction. Et on parlera d'actualité. On dressera demain avec vous tous un bilan de l'action des 12 premiers mois du président Macron à l'Elysée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Jessica Taïeb, Boris Vichit, Marc Fichet. Merci à Fouque Foller. Merci également à Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI. Et n'oubliez pas, cette